vue d'ensemble de l'actualité.
Les sauveteurs ont vu un jeune qui était en difficulté dans le petit lac La Berge. Le temps qu'il se rende jusqu'à lui, malheureusement, ils l'ont perdu de vue avant de se rendre à ce dernier. Il y a également des citoyens qui étaient sur des embarcations là, qui ont contribué aux recherches. Et c'est d'ailleurs un de ces citoyens qui a localisé le jeune homme.
Trainville PM.
Aïe, 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 deux enfants qui sont décédés dans les dernières 24 heures au Québec. Là, il y a une fillette de 2 ans qui est décédée dans un étang derrière la maison, dans le coin de l'Estrie. Et il y a cet enfant de 10 ans, donc, vous venez d'entendre le porte-parole donc de la police de Québec, David Poitras, qui vous explique un petit peu les circonstances. Et là, on va aller rejoindre Reynald Hawkins, donc, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour, Reynald.
Bonjour, Bernard.
Parce que ce qui me trouble dans cette histoire-là, c'est que il voit que l'enfant est en difficulté, mais il n'arrive pas à le sauver avant qu'il se noie. Et ça me trouble, parce que ça veut dire donc qu'il y avait une trop grande distance entre la surveillance et l'enfant. Est-ce que tu fais la même lecture que moi?
Bien, j'aurais tendance à faire la même lecture, mais ce que je dis aussi depuis hier, vous et moi, on n'étions pas là, là. Fait que donc, on se limite à ce qu'on nous rapporte, là. Et ça, c'est vraiment des questions dans lesquelles j'ose espérer qu'on aura les réponses via l'enquête d'investigation du coroner. Mais si je peux me permettre, là, de façon générale, la zone de baignade, elle est fixée de façon maximale, là, à 1,6 mètres de profondeur. Alors, dépendant du fond de la plage, peut-être que le 1,6 mètres est plus loin que d'autres plages et vice-versa. Donc, et ça, c'est vraiment ce que la régie du bâtiment va aller faire comme enquête, voir c'était quoi la distance entre la tour du sauveteur et l'endroit où était l'enfant, tout comme les policiers ont dû faire cette démarche-là aussi hier dans leur rapport d'investigation qu'ils devront remettre au coroner.
Mais il reste, Bernard,
si je peux me permettre, là encore, là, c'est que pour nous, c'est toujours une noyade de trop, particulièrement lorsqu'il est en surveillance. Et c'est certainement que je suis en pensée avec la famille, mais aussi avec l'équipe école puis les sauveteurs. Parce que c'est clair que personne ne souhaitait ça. Bien sûr
qu'on pense à la famille. On pense à la famille, puis on pense effectivement à ceux et celles qui accompagnaient les enfants. Mais on pense aussi à tirer les leçons de ce qui s'est passé pour éviter qu'il y en ait d'autres. Puis moi, c'est ça qui me trouble. Tu sais, on n'est pas à l'abri d'un accident. Là. Je ne suis pas en train de faire la morale à personne, là, mais ça me trouble. Ça me trouble parce qu'il y en avait des surveillants, il y en avait des surveillantes. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas suffisant de surveiller. C'est-à-dire, il faut que tu te demandes, si jamais l'enfant est dans le trouble, combien de temps ça va me prendre pour me rendre à lui, pour me rendre à elle?
Oui. Et on sait, là, la noyade chez un enfant, là, je connais pas toutes les capacités respiratoires de cet enfant-là, mais la noyade chez un enfant, en moyenne, c'est en moins de 30 secondes. Alors donc, la question auquel vous faites allusion, là, est tout à fait vraie, là. Combien de temps ça me prend de me rendre là? Est-ce que mon équipement est toujours prêt? Faut pas oublier non plus que c'est comment on est venu dire aux sauveteurs qu'il y avait une personne en difficulté. Vous savez, nous, on a fait, là, et je me souviens, là, parce que c'est pas la première enquête du coroner que je fais, là, depuis le temps que j'y travaille. J'avais assisté la coroner Dr. Louise Nollet, là, à l'époque où elle était coroner avant de devenir coroner en chef. On était dans une sortie, justement, de camp d'été, là, de camp de jour. Mm-hmm. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait venir mettre les balises, là, ce que j'appelle la préparation de la sortie aquatique, l'accueil des enfants, justement, puis lorsqu'arrive l'organisation de la baignade, c'est déterminer qui sait nager, qui ne sait pas nager, voilà. Le système du copain-copain. Donc, on est venu créer un guide en 2006. On l'a revu, ce guide-là, en 2016. Oui. Et là, j'ose espérer que ça avait été appliqué aussi, ces règles-là.
Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, là, puis encore une fois, là, j'essaie de tirer les leçons, puis on essaie de se donner des manières de sauver nos enfants là, d'une noyade. Mais est-ce qu'on ne devrait pas inculquer à nos enfants, si jamais tu es en difficulté, voici ce que tu dois faire comme mouvement, voici, tu sais, pour qu'il y ait une espèce de code, parce que il y a une des jeunes filles, une petite fille qui était là, qui dit, je l'ai vu, mais je pensais qu'il dansait, tu sais, qu'il dansait dans l'eau, fait que je...
Eh oui.
Alors, je pose la question, tu sais, parce que des fois, on peut penser que l'enfant, il crie parce qu'il s'amuse. Tu sais, des enfants dans l'eau, ça crie tout le temps. Fait que l'enfant qui est sur le bord de se noyer, ça se peut, j'imagine, dans certains cas, qu'il crie à l'aide. Mais si on pense qu'il s'amuse, ben on le laisse aller. Puis la première
affaire... Bernard, c'est pour ça qu'on a nagé pour survivre. C'est vraiment pour ça qu'on fait nager pour survivre dans les écoles. Là, je suis obligé de dire que ça fait partie des effets dominos de la pandémie. Ça fait 2 printemps que je ne peux pas offrir nager pour survivre dans les écoles, non pas par manque de volonté du gouvernement puis des exploitants de lieux de baignade. J'ai une pandémie qui est venue me contrer le déploiement de ça par les fermetures de piscines au printemps dernier et toute la notion de classe bulle qu'on avait ce printemps. Alors, et c'est ce qu'on démontre aux enfants, là. Comment réagir lorsque tu es pris en difficulté
alors,
dans l'eau, là?
Qu'est-ce que tu leur dis, Rénald? C'est quoi que tu leur dis dans ces cas-là?
Bien, là, premièrement, on valide leur capacité de savoir nager. On leur démontre l'importance, quand tu ne sais pas nager, l'importance de porter cette veste de flottaison. Et on lui montre de faire cette flottabilité-là sur le dos, justement. On lui montre à l'enfant de comment tu peux te maintenir à la surface pendant au moins 60 secondes. OK? Je l'ai vu le témoignage de la jeune fille en question, là, et je comprenais très bien ce qu'elle disait parce que effectivement, c'est pas toujours évident si je n'ai pas été entraîné de reconnaître une personne en difficulté. Le ratio d'accompagnateur ou accompagnatrice avec les enfants ou le ratio du nombre de sauveteurs par rapport à cette plage-là, ça seront certainement les questions dans lesquelles j'aurai des réponses dans l'enquête d'investigation. Oui. Et je le dis, là, depuis 30 ans que je suis le porte-parole, à chaque fois que ça touche une noyade chez un enfant, c'est toujours une de trop, j'en conviens. Et encore plus vrai lorsque c'est dans un milieu où techniquement, il ne devrait pas s'en produire. On a besoin d'apprendre de tout ça et j'ose espérer que j'aurai des résultats concluants.
On l'espère aussi. Rénald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. Merci, Rénald.
Au plaisir. Au revoir.
À la prochaine. Alors, pensez encore une fois pour la famille de ce petit garçon de 10 ans. On s'en va à la pause au retour. On va parler de Céline Dion. Et on va vous demander, si vous gagnez 1 million, est-ce que vous continuez à travailler ou pas?